BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle, François Sorel.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver comme chaque week-end. C'est parti pour De quoi je me mêle, votre rendez-vous hebdomadaire dédié à toute l'actualité high-tech. Vous pouvez nous retrouver bien sûr sur les applis, l'appli RMC, l'appli BFM Business, sur l'appli 01net aussi. Et puis, vous le savez, on est diffusé le week-end sur BFM Business à la radio, à la télé. Et puis, si vous avez la chaîne 01 TV sur les box, vous pourrez aussi peut-être nous retrouver. En tout cas, merci d'être là. Au menu de ce De quoi je me mêle tout à l'heure, on va revenir sur cette rumeur qu'on évoque depuis quelques temps déjà. Cette possible connexion par satellite de l'iPhone 13 qui va être annoncée, en tout cas au moment où on enregistre cette émission, dans quelques jours. Je recevrai un spécialiste du satellite tout à l'heure. Il s'agit d'Alexandre Tisserand, qui est le patron d'une boîte qui s'appelle Kineis. Kineis est une start-up qui s'apprête à lancer, écoutez bien, 25 nanosatellites autour de la Terre pour justement comptabiliser par exemple des animaux. C'est très intéressant, et ils ont une expertise dans le domaine de la transmission satellite. Il nous dira si oui ou non aujourd'hui, techniquement, sur un petit smartphone, on peut communiquer via satellite. Ça s'annonce passionnant, ça sera en deuxième partie de quoi je me mêle. Le hashtag DQJMM, bien sûr, sur Twitter pour réagir. Vous avez la page Facebook qui vous attend. Merci d'être là et bienvenue. Et pour débuter, bien sûr, c'est toute l'actualité de la semaine. Maintenant qu'on va voir avec nos spécialistes, nous avons Nicolas Lelouch. Bonjour Nicolas.
Bonjour François, bonjour Anthony.
Journaliste à 01net.com et puis Anthony Morel qui est là. Salut Anthony.
Salut François, salut Nico, salut à tous.
Et bien voilà, il y a eu une manifestation de bonheur dès la semaine dernière lorsqu'Anthony est venu dans De quoi je me mêle. Donc on remet ça, bien sûr. Voilà, ravi de te retrouver.
Non, mais c'était super, donc j'espère continuer comme ça pendant longtemps.
Et bien voilà, tu es le bienvenu. L'actualité donc de la semaine, alors beaucoup de choses, hein. Bien sûr, on va évoquer tout au long de cette émission Apple Car, on va évoquer aussi cette folie des milliardaires de l'internet qui essaient de combattre la mort et peut-être de la faire disparaître. C'est un sujet qui t'intéresse et qui nous intéresse tous.
Ça me fascine en tant qu'hypochondriaque, en plus mon vie éternelle et pour vaincre le vieillissement, je trouve ça génial.
Ouais, on va en parler dans un instant, mais on va débuter par décision de la part de l'Allemagne qui demande à la Commission européenne, Nicolas, d'avoir 7 ans de mise à jour sur des smartphones. 7 ans de mise à jour.
Oui, c'est beaucoup, 7 ans de mise à jour, parce qu'aujourd'hui, on en est loin. Il n'y a pas de cadre aujourd'hui qui force les constructeurs à mettre à jour les smartphones, donc chacun fait ce qu'il veut. Généralement, c'est des décisions marketing. Ça tourne autour des 2-3 ans pour la plupart des constructeurs, parfois moins, et rarement plus. Ceux qui font plus, en fait, c'est Apple, Samsung et OnePlus, qui sont les seuls constructeurs. Apple, là, on est à 6 ans sur l'iPhone 6S, c'est déjà le record. Ouais. À voir si on va aller sur cette fameuse 7e année. Là, en l'occurrence, le ministère de l'économie allemande a demandé à la Commission européenne de faire une loi contre l'obsolescence programmée, contre l'obsolescence logicielle, pour contraindre tous les constructeurs de smartphones à mettre à jour les téléphones pendant 7 ans, et à fournir des pièces détachées pour les réparer. Ce qui voudrait dire qu'un téléphone dont le haut-parleur se met à grésiller au bout de 5 ans, eh bien le constructeur aurait l'obligation dans les 5 jours de le réparer. Il spécifie un 5 jours, hein. C'est pas des pièces qu'on commande en Chine qui arrivent
dans un mois.
C'est, il doit y avoir du stock rapidement. Évidemment, hein, vous vous doutez que ça plaît pas beaucoup aux constructeurs. Il y a le lobby Digital Europe qui représente Apple, Samsung, Oppo, Xiaomi, qui essaye de lutter contre cette proposition. Lui propose 3 ans de mise à jour pour tout le monde. Ça serait déjà un progrès, parce que au moins on aurait un cadre législatif qui contraindrait les constructeurs à mettre à jour leur téléphone, et ça serait pas juste selon leur bon vouloir. Et ils proposeraient la réparation uniquement pour les batteries et pour les écrans, ce qui serait donc un petit peu plus limité que cette proposition de loi allemande. On verra, je pense que ça se situera sans doute entre les deux, mais ça reste assez intéressant de voir toutes ces initiatives européennes, françaises, allemandes, qui finalement vont avoir un impact mondial.
Alors évidemment, hein, Anthony, il y a cette petite musique de l'obsolescence, ouais. Il y a cette petite musique aussi de se dire on change trop rapidement nos téléphones parce qu'il y a cette course à la technologie. Ouais. Est-ce qu'on devrait garder plus longtemps son smartphone, ton avis ?
Bah, en fait, pour moi, c'est le choix du consommateur. Et c'est là qu'il y a une forme un peu, j'allais dire, d'hypocrisie, même si je comprends l'intention, elle est louable, le fait de dire si les gens le veulent, ils pourront garder leur téléphone pendant 7 ans et il n'y aura pas de problème ni technique, ni d'un point de vue logiciel. Ils pourront le faire réparer facilement. Très bien. Mais en fait, qui ça concerne vraiment ? Est-ce que ça ne concerne pas une frange de consommateurs qui est finalement relativement réduite ? C'est vrai qu'il y a une prise de conscience générale que les smartphones, ça pollue, qu'il y a le problème du recyclage des batteries, etc. Mais globalement, quand tu regardes les chiffres, le renouvellement des smartphones aujourd'hui, en France, c'est on change en moyenne tout un peu en dessous de tous les 2 ans. Et on est encore relativement raisonnable, je ne sais plus si c'est dans le monde ou en Europe, mais c'est 20 mois la moyenne. Donc si tu veux avoir un téléphone qui dure 7 ans, en définitive, on voit que en fait, les consommateurs, ils veulent le nouveau joujou, ils veulent le nouvel appareil photo. Donc très bien prendre des mesures et de dire, génial, il va falloir lutter contre l'obsolescence programmée. Si les gens veulent acheter un téléphone tous les 2 ans, ça ne changera au final pas grand-chose.
Oui, d'autant plus, j'ajouterais qu'un téléphone peut durer techniquement 7 ans sans mise à jour. Hein. Ce n'est pas non plus le téléphone casse au bout de 4 ans. Les mises à jour, moi le seul truc qui me pose problème dans cette proposition de loi, c'est qu'elle ne prend pas en compte une réalité chez les constructeurs qui est que mettre à jour des anciens téléphones, surtout quand on est un Samsung, un Xiaomi avec des centaines de références, ça va nécessiter l'emploi de beaucoup de monde, ça va potentiellement créer des problèmes logiciels. On peut imaginer une mise à jour de sécurité qui va ralentir un téléphone alors que sans mise à jour, il serait resté un état plutôt stable. Donc je ne sais pas si 7 ans, ce n'est pas un petit peu trop. Après, dans tous les cas, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle d'avoir un vrai cadre législatif sur ce genre de choses.
Parce que le téléphone qui dure 7 ans, que tu peux réparer à la demande, etc., il existe, c'est le Fairphone, sauf que personne n'en veut. c'est une réalité aussi. Hein.
Non, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, enfin, de la part des constructeurs, une espèce de volonté de nous pousser à changer de téléphone.
Forcément, c'est vrai.
Regarde, là, évidemment, on parle tous de la keynote Apple de l'iPhone 13. On doute bien que cet iPhone 13 ne sera pas complètement révolutionnaire par rapport à l'iPhone 12. Hein. Ouais. Ça, c'est certain.
C'est clair.
Mais malgré tout, on est tous un petit peu dans la boucle, finalement.
C'est vrai.
Apple essaie de vendre un maximum de téléphones, donc tous les ans, ils en sortent un. Samsung, Xiaomi, tout ça, ils sont tous dans ce truc-là. Ouais. Mais finalement, moi, juste une petite anecdote, j'ai ressorti d'un tiroir un vieux Galaxy S4 que j'avais. Galaxy S4 2013.
Ouais, ça date un peu le Galaxy
S4. Donc ça fait 8 ans. Et je me suis dit, tiens, est-ce que je peux m'en servir ? Donc je l'ai allumé. J'ai eu quelques mises à jour, ça faisait des années, évidemment, j'ai eu une ou deux mises à jour de sécurité, mais je suis encore sur un vieil Android, je ne sais plus quoi. J'ai installé WhatsApp et ça marche.
Ouais.
Alors c'est lent, bien sûr, mais
c'est
tu vois,
ça.
Tu peux malgré tout communiquer.
Mais pas mauvais, tu le disais, hein, Nico, mais ils sont plutôt bons élèves, hein, sans être vraiment, sans faire le fanboy, parce que ce n'est vraiment pas le cas, mais globalement, de ce point de vue-là, ça tient plutôt longtemps, quoi, même avec les mises à jour logicielles. Alors, ils ont admis, je me souviens qu'ils avaient été condamnés, je crois, en Italie pour une histoire d'obsolescence programmée, et ils avaient admis eux-mêmes que oui, ils ralentissaient volontairement au bout d'un certain nombre d'années les téléphones, mais c'est parce que en fait, les nouveaux systèmes d'exploitation devenaient tellement gourmands que si on voulait que la batterie dure plus qu'une heure ou deux, il fallait forcément les ralentir. Donc il y a ce côté, en fait, dans la notion d'obsolescence programmée, il y a ce truc de est-ce que c'est... Parce qu'on voit les mecs qui se réunissent dans des réunions secrètes en disant comment est-ce qu'on va faire pour essayer de flouer ceux qui ont acheté leur téléphone il y a 5 ans.
C'est un côté vicieux
pour moi, c'est plus un truc où on a des mises à jour logicielles qui sont de plus en plus gourmandes parce qu'on veut avoir de plus en plus de fonctionnalités extrêmement intéressantes. Et du coup, forcément, les téléphones anciens, ça va beaucoup moins bien fonctionner. Mais je ne sais pas s'il y a une volonté pernicieuse derrière ça. Peut-être que je suis trop candide.
Et d'autant plus, je me rappelle d'un test que mon collègue Adrien Branco avait fait sur 01net.com l'année dernière avec un iPhone 6S et iOS 14. Donc c'était une mise à jour d'un téléphone d'il y a 5 ans à l'époque. Ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait changé la batterie pour lui redonner justement Anthony. C'est-à-dire que quand la batterie vieillit, le téléphone est ralenti automatiquement. Et on s'était rendu compte que le téléphone était plus rapide qu'à son lancement et que son autonomie était légèrement meilleure. Donc, ça veut dire que même 5 ans après, en tout cas pour des marques comme Apple, comme Google, comme OnePlus, il y a vraiment un effort de ce côté-là. Donc c'est possible de ne pas tuer le téléphone. Mais on prenait l'exemple de Fairphone. Je trouve que c'est malheureusement, le concept en lui-même, il est intéressant, sauf que les composants à l'intérieur d'un Fairphone, ils vont automatiquement vieillir. Donc même s'il y a la meilleure volonté du monde de la part du constructeur, au bout de 3 ans, les applications, elles vont commencer à pas très bien supporter le Fairphone. Et c'est là qu'on voit la limite de tout cet univers du smartphone. Si on veut vraiment profiter de tout au maximum, faut changer régulièrement. Ouais. C'est malheureusement comme ça.
Ouais. Ouais, très intéressant comme sujet. Hein. Ouais. On voit que c'est un univers. Est-ce qu'il faudrait peut-être pas aussi dire aux constructeurs de ralentir sur la cadence de sortie
des téléphones ? Je pense que ça, c'est impossible. Les constructeurs font du business. Après, la conscience, entre guillemets, elle doit venir de la part du consommateur si elle vient de
et les constructeurs diront toujours qu'eux ne forcent personne à changer.
Voilà.
Mais ils ont raison de le dire.
Mais quand Tim Cook monte sur scène en disant que le smartphone, l'iPhone 12 a un processus processeur plus puissant qu'un Mac de je ne sais pas quelle année. Tu sous-entends aussi que finalement, ce téléphone pourrait durer peut-être 7 ans avec des mises à jour, etc. Alors, Apple est à la limite, est plutôt un bon élève, comme tu le disais, mais c'est vrai que c'est intéressant.
Ah oui, ils sont sur la ligne tangente toujours. Mais c'est vrai. Ouais.
C'est le marketing, il faut vendre.
Exactement. Voilà.
Mais est-ce que tout ça va rester comme ça? Ça, c'est un autre débat. Peut-être qu'on y reviendra un jour. Rappelons, donc, mardi prochain, puisque nous enregistrons ce De Quoi Je Me Mêle en fin de semaine, le 14, mardi 14, l'iPhone 13 sera annoncé. Alors, qui commence?
Vas-y, Nico.
Allons-y, oui. Bon, on s'en doutait. Hein, je pense que ça fait bien un mois dans cette émission qu'à chaque fois, on dit c'est quand la date.
Ouais.
Voilà, on a eu bon, c'était pas compliqué, c'est toujours le deuxième
des
mardi
devant.
Du mois à peu
des
près.
C'est ça.
Non, faut reconnaître que c'est assez facile de prédire les dates des événements Apple.
On pourrait même prédire celui de l'année prochaine finalement.
Franchement, hein, facilement. Je pense que c'est
deuxième mardi de septembre. Deuxième
mardi de septembre. On peut trouver, on peut donner la date, on revient dans un an, on fait un point. Ça sera bien le 14 septembre. Le slogan de cet événement, c'est California Streaming. On le voit à l'écran actuellement. C'est toujours assez mystérieux, les cartons d'invitation Apple. Vous vous doutez que tous les fans de la marque sont en train de deviner. Certains disent, derrière la pomme, c'est flou. C'est la preuve qu'il va y avoir le mode portrait en vidéo. En effet, les rumeurs en parlaient. On voit que la pomme, elle est un peu découpée en deux. Et certains, ils voient du rose et du bronze. Donc, ils pensent qu'il y a eu un nouveau coloris rose pour les iPhone 13 et un nouveau coloris bronze pour les iPhone 13 Pro. C'était aussi dans les rumeurs. Donc, en même temps, pourquoi pas. On ne peut pas deviner plus à partir de ce carton d'invitation. Ce qu'on sait, c'est que le rendez-vous, il est fixé mardi à 19h, que ça devrait en effet être l'iPhone 13, la grosse star du jour. Hein. Ça serait, on en parlait tout à l'heure, tu le disais, une petite évolution. Il ne faut pas s'attendre à de très gros changements. On resterait sur les quatre mêmes formats que l'année dernière. On aurait du 120 Hz et de l'Always On Display sur les modèles Pro. On parle d'une encoche plus petite, c'est assez étonnant ça. Par contre, j'ai du mal à comprendre pourquoi faire une encoche plus petite 4 ans après, surtout si le but est d'enlever l'encoche dans le futur.
Ouais, peut-être, c'est le progrès technique qui fait que le Face ID prend moins de place. Peut-être,
il y a de ça, oui. Je trouve ça assez bizarre personnellement. Ouais. L'arrivée d'une connexion satellitaire, c'est la grosse rumeur. Est-ce que Apple va en parler ou non? On verra, je crois qu'on en parlera.
Ouais, on aura un expert tout à l'heure, ça intéresse.
J'ai hâte d'écouter ça d'ailleurs, je trouve ça assez passionnant comme sujet. Et le dernier point, c'est des rumeurs assez récentes, mais qui devraient faire plaisir à certains et énerver les anti-Apple. On parlerait de plus grosses batteries pour toute la gamme. Ce qui est assez rare pour Apple, mais ça ne serait pas juste une amélioration de logiciel, ça serait vraiment, ils auraient fait le choix d'augmenter l'épaisseur du téléphone légèrement, d'augmenter le poids pour mettre des plus grosses batteries à l'intérieur. Donc ça pourrait être intéressant. En plus de ça, on parle des nouvelles Apple Watch, on parle éventuellement d'un nouvel iPad, on parle éventuellement de nouveaux AirPods. Ouais. Qu'est-ce qui sera vrai? On ne sait pas, mais on en parle très rapidement.
Les paris sont lancés, les fantasmes courent, Anthony.
Ouais. Est-ce qu'on aura un écran 120 Hz et une encoche plus petite? C'est le suspense, c'est incroyable. C'est franchement, non mais c'est comment ne pas s'enthousiasmer? Non, je vais pas vous mentir. Franchement,
surtout juste avant avoir évoqué ce sujet sur l'obsolescence et les.
Oui, ouais, exactement.
Disons, ça va bien ensemble.
C'est une résonance, exactement. C'est ce qu'on disait à l'instant, quoi. C'est là beaucoup de marketing. Ça me fait pas tellement rêver là. Pour le coup, cette keynote, j'adore. Hein, Apple va nous comme à chaque fois, ils vont probablement présenter le produit ou l'un des meilleurs produits sur le marché, il n'y a aucun doute là-dessus, ils font des produits formidables. Après, on sait très bien que les cycles d'Apple, c'est une année avec un produit qui sort un peu du lot, c'était l'an dernier avec la 5G, nouveau design, etc. Et que l'année d'après, en général, c'est une année un petit peu en creux avec des évolutions très incrémentales. Là, c'est un peu ça. J'avais un petit peu d'espoir sur les Apple Watch, parce qu'il y avait pas mal de rumeurs, tu sais, sur l'arrivée, par exemple, de capteurs de glycémie pour les patients diabétiques, sur le fait qu'on soit vraiment en train de les transformer en dispositifs médicaux, ce qu'ils ont commencé à faire avec l'électrocardiogramme, avec les capteurs d'analyse du taux d'oxygénation, du sang, etc. Moi, ça, c'est un truc qui m'intéresse. Hein, le fait que ces appareils qui étaient des podomètres améliorés soient vraiment en train de se transformer en dispositifs médicaux et en truc de...
Ça c'est la vraie révolution Apple, en
exactement.
Fait.
Exactement. Tim Cook l'a dit, hein, de toute façon, la prochaine grande révolution d'Apple, ce sera dans la santé, c'est un peu la marque qui veut laisser. Donc ça, c'est intéressant. Mais même ça, apparemment, ce sera pas pour cette édition-là. Je crois que c'est Mark Gurman que tu cites souvent qui a dit ce sera peut-être pour l'an prochain. Mais en tout cas, c'est pas pour cette fois-ci.
Donc pas surtout, beaucoup de nouveautés.
Ça serait surtout un nouveau design. Donc c'est quand même une nouveauté importante. Pour Apple.
Oui.
Ça serait le deuxième redesign depuis 2014 et des plus grosses batteries. Mais c'est vrai que niveau fonction, je suis d'accord avec Anthony, j'ai l'impression qu'on va un peu s'ennuyer
sur la Watch. On va suivre ça, hein, mais bon, écoute, je ne sais pas, c'est pas aussi excitant que ça peut l'être certaines années, c'est voilà, clair. C'est tout, mais sans après, vouloir être blasé. Hein.
Non, c'est clair. Bon, après, on est dans une émission de tech, c'est un téléphone qui va se vendre à des centaines de millions d'exemplaires, on est obligé d'en parler, c'est logique. Même si c'est vrai qu'on commence à avoir un peu cette lassitude, il se trouve que dans Tech & Co, j'ai reçu cette semaine le directeur général de Qualcomm France qui m'expliquait que Qualcomm venait d'annoncer une puce en fait sur les téléphones, donc qui est dans la puce Qualcomm, qui permet de transmettre du son sans perte de qualité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec le Bluetooth. Avec le Bluetooth, en fait, recompresse le son.
Ouais.
Et je me dis, tiens, est-ce que ce nouvel iPhone ne pourrait pas avoir cette puce, sachant que Apple pousse aujourd'hui le son lossless, sans perte de qualité, avec de nouveaux AirPods qui devraient arriver dans les semaines ou les mois qui viennent, parce qu'il faut qu'évidemment l'appareil soit compatible avec cette nouvelle puce, ça pourrait peut-être aussi être une évolution.
Ouais,
mais bon, encore une fois, ça ne va pas nous changer la vie, hein, ça c'est certain.
Peut-être un truc à surveiller, c'est au niveau des prix. Je crois qu'on en parlait la semaine dernière, mais comme il y a eu
pénurie
des composants, on va voir ce qui va se passer.
Faut voir.
Autre sujet qui est lié à Apple, mais qui est peut-être un petit peu plus intéressant, c'est le flou total concernant le projet Apple. Hein, peut-être qu'Anthony, tu peux nous en dire un mot, parce que c'est tombé il y a quelques heures. Hein, on a appris que le patron du projet Apple Car quittait Apple.
Oui, c'est ça. Il part chez Ford. Hein, c'est ça. C'est le responsable. Alors, j'ai plus son nom parce que c'est
Field.
Voilà, Field. J'avais plus son prénom. Qui était en charge du projet Titan. C'est le nom de code du projet chez Apple de l'Apple Car. Et qui a été débauché en fait, hein, tout simplement par Ford, qui a dû lui faire un très joli chèque pour qu'il parte. Et ça montre bien quand même que ce programme Titan et ce projet de l'Apple Car, c'est quand même très compliqué, quoi. C'est quand même très compliqué. Ça a l'air d'être vraiment le bazar. Moi, j'aimerais bien être une petite souris et voir comment ça se passe, parce que c'est vraiment
les réunions où ils disent bon, les gars, on en est où alors ?
C'est clair. On fait des voitures, on fait pas des voitures. On fait des logiciels.
Si
ouais, non, mais ça, je crois que c'est, je crois pas dire de bêtises. C'est le quatrième responsable du projet Titan qui quitte le projet, qui quitte l'entreprise. Donc ça veut bien dire quand même qu'il y a un truc qui se... On comprend qu'il y a, que c'est, que, comment dire, il y a une grosse dose de flou et d'incertitude. Ils ont commencé, ils voulaient faire des voitures, c'est des Apple Car. Après, ils se sont dit, bon, bah, faire une voiture, c'est quand même un métier, c'est compliqué. Finalement, on va être s'occuper de la partie logicielle, mais on va chercher des partenaires industriels. Oui, mais quel partenaire industriel ? Il y a eu des rumeurs comme quoi ils s'étaient rapprochés de Hyundai, notamment, des rumeurs qui étaient très, très précises en termes de chiffres, etc. Et puis finalement, apparemment, ça s'est pas fait. Là, on ne sait plus tellement où ils en sont. On sait qu'à un moment, ils ont revu un peu leurs ambitions à la baisse aussi sur ce programme, dont ils n'ont toujours pas dit un mot officiellement, hein, d'ailleurs. Hein,
Tim Cook a confirmé l'intérêt d'Apple pour l'automobile.
Voilà.
Mais après, on ne sait pas du tout ce que c'est.
C'est ça. Donc c'est assez étonnant. Moi, ce qui m'a intéressé aussi dans le départ de ce monsieur, c'est le fait qu'il parte chez Ford, justement. On parle souvent des grands groupes technologiques qui débauchent des talents chez les constructeurs traditionnels, et on voit que ça se fait dans les deux sens. C'est-à-dire les constructeurs traditionnels vont aussi chercher chez Apple. On sait aussi, on avait vu récemment que Renault avait débauché Luc Julia, le papa de Siri, et qui était patron de l'innovation chez Samsung. Donc on voit que voilà, ça bouge dans les deux sens.
Ouais. Et puis rappelons que Ford est un constructeur automobile historique. Hein, c'est un peu le constructeur emblématique américain. Mm. Ça va être intéressant de voir aussi... parce que ce gars-là, en arrivant, Doug Field, il a tout son background. Il a travaillé chez Tesla, il a travaillé chez Apple. Ouais. Donc on peut imaginer que tout ce qu'il a engrangé... Alors j'imagine qu'il y a des clauses de confidentialité et tout ça. Mais bon, après, quand il arrive chez Ford, il va dire, bon, vous savez quoi, chez Apple, ils préparent ça, les gars. Chez Tesla, il y a ça dans les tuyaux. Vous savez quoi, on va essayer de faire un truc un peu différent ou essayer de c'est ça qui est passionnant.
Je sais pas comment ça se passe. C'est un point intéressant.
C'est un point intéressant.
Je sais pas, tu t'imagines dans les réunions, le gars, effectivement, il a tout le passif Apple.
Il connaît toute la stratégie, tous les secrets. C'est hallucinant.
Je sais pas comment ça se passe.
Et avant, il est resté 5 ans chez Tesla aussi.
Clair,
donc il a des secrets industriels que forcément il va communiquer chez Ford. C'est obligé. Même s'il a signé des kilomètres,
c'est impossible de ne pas le faire.
Obligé.
C'est intéressant.
Je trouve ça hyper intéressant. Alors, on a parlé d'Apple. On a parlé de cette voiture, peut-être évoquer aussi un sujet qui progresse dans le domaine du smartphone, Nicolas, c'est la recharge.
Oui.
C'est vraiment, parce que finalement, on a l'impression que le stockage d'énergie, bon, pour l'instant, il n'y a pas d'innovation de rupture. Hein. Voilà, une batterie, ben, c'est quelques milliers de milliampères, et puis voilà, ça ne bouge pas. Mais en revanche, il y a des efforts et des progrès qui sont faits sur la recharge rapide.
Complètement. On en parle souvent de la fameuse recharge ultra rapide, comme on l'appelle. Je demande comment on va faire quand il y aura encore plus rapide, du coup, ça, méga ultra rapide. Alors, bon, bref, chez Oppo, c'est Oppo le premier à avoir lancé ça, on est sur du 65 watts. Ce qui est marrant, c'est que les autres, Xiaomi, Huawei, ils ont fait 66 et 67, histoire de dire ils vont un petit peu plus vite, mais en réalité, tout le monde tourne autour de la même puissance aujourd'hui. Maintenant, on a reçu cette semaine un smartphone à la rédaction de 01net qui a un nom horrible, c'est le Realme GT Master Edition. Je ne comprends pas pourquoi l'avoir appelé comme ça, mais bon, passer ce détail...
C'est le master de la batterie.
C'est le master de la batterie. Oui, c'est un smartphone milieu de gamme puisqu'il coûte 350 €. Il a une batterie d'une capacité assez importante, c'est 4300 mAh. Et cet appareil, on l'a branché, nous, à 01net. Ce qu'il y a à savoir, c'est que quand on reçoit un téléphone, on fait plein de tests, dont le test de recharge. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on le vide à 0%, on installe un petit logiciel dessus, on le branche et ce logiciel va nous envoyer toutes les 20-30 secondes le pourcentage de batterie. Donc ça nous permet d'avoir une courbe. Et ce téléphone s'est rechargé en 21 minutes.
Ah, pas mal.
Ce qui est un record parce
pas
qu'on
mal.
Était à 30 auparavant.
Wow.
On a trouvé ça assez impressionnant. On s'est dit qu'il devait y avoir un bug. Je pense qu'on avait raison parce que on a fait 3 autres tests. À chaque fois, on était autour de 25. Donc, j'ai pour théorie que le premier test, la batterie n'était pas assez rodée
oui,
ou alors
il
avait raté quelque chose. Mais dans tous les cas, c'était impressionnant. Et 25 minutes reste le record. En 10 minutes, on passe à 60% quand même. Hein. Donc, je vous laisse imaginer. Ça veut dire
ça,
que
c'est le téléphone. C'est même ça qui est le plus important.
Le téléphone n'a pas chargé dans la nuit, vous vous réveillez, il est à 0%, vous
on
le branchez, vous allez vous laver les dents, vous revenez, vous êtes à 60%, vous finissez la journée.
Clair.
Donc ça, c'est quand même assez bluffant. Ça pose évidemment plein de questions. Déjà, comment c'est possible que Realme, avec une techno qui existe depuis 2 ans, batte un record ? Est-ce qu'on peut imaginer, moi c'est une des théories du laboratoire de 01net, que toutes les protections logicielles qui sont normalement implémentées par Oppo, bah Realme, et bah ils n'en ont rien à faire et ils laissent vraiment la puissance maximale pour battre le record. Quitte à ce que la batterie, bah, dans 2 ans, et bah, on soit obligé de la remplacer.
Quitte à ce qu'on ait un incendie à la maison.
C'est ça. Oui, mais ton téléphone est très très vite chargé.
Attends, ça c'est clair.
Voilà, c'est l'incendie, ça va.
Et puis une table de nuit, ça sert à quoi, franchement?
Oui, après tout, l'hiver, ça peut être sympa. Ça réchauffe un peu.
Double emploi.
Et bon, après ce record Realme, l'autre truc qui est assez intéressant, c'est qu'on est peut-être sur un tournant de la recharge ultra rapide. Il y a Xiaomi qui a annoncé il y a quelques mois la recharge 200 watts. Elle n'est pas encore prête à être commercialisée, mais par contre, dans les tout prochains jours, je crois que c'est sûrement semaine prochaine ou semaine d'après, il va y avoir une conférence Xiaomi pour le 10T, parce que maintenant ça s'appelle plus Mi 10T, mais 10T tout court. Et ce téléphone aura un chargeur de 120 watts dans la boîte. Donc c'est 2 fois plus rapide qu'actuellement. Et on pourrait normalement atteindre les 15 minutes de recharge pour du 0-100%. Donc je pense qu'on se prépare là, sur cette fin d'année, et surtout sur l'année 2022, à avoir des recharges encore plus rapides, avec toujours deux camps, à savoir les constructeurs chinois qui vont très vite, et les constructeurs historiques, entre guillemets, Apple, Samsung, qui vont assez lentement.
Ouais, c'est
ça qu'on voulait pour la keynote d'Apple.
Mais c'est vrai que...
Attends, c'est ça.
2 explications que je peux imaginer à cette absence d'Apple et Samsung. Un, ils savent pas forcément faire, ou alors ils sont moins forts que les Chinois là-dessus. 2, ils produisent dans des beaucoup plus importantes quantités, ils sont beaucoup plus regardés que les autres, ils ont connu des scandales, l'iPhone qui se plie, le Galaxy Note qui explose, et ils partent du fait qu'il vaut mieux se recharger en 1 heure et éviter les problèmes plutôt qu'avoir des ennuis dans 2 ans avec des gens pas contents.
Mais je vais te dire, moi, j'ai un 12 Pro Max, hein, et je me suis acheté un gros chargeur de Mac, tu sais... qui doit faire, je sais pas, 70 watts, je crois, un truc comme ça. Et le 12 Pro Max se recharge en... Enfin, tu fais 0,50% en un quart d'heure aussi. Hein.
Ouais.
Ça va très, très vite.
Je suis peut-être en train
de fracasser la batterie de mon téléphone. Mais en tout cas, ça va très, très vite. On voit qu'il y a une différence.
Je crois que c'est 1 heure, la recharge intégrale de l'iPhone. Donc, c'est quand même beaucoup plus rapide qu'à une époque où on était autour de 2 heures, 2h30.
C'est ça.
Mais c'est vrai qu'après, toutes les problématiques de sécurité et de durée de vie de la batterie, elles sont quand même importantes. Faudra voir sur la... Parce que je me souviens, vous aviez dû voir aussi au Mobile World Congress, le grand salon du mobile, il y avait cette boîte qui s'appelle StoreDot, je ne sais pas si vous voyez, c'est une boîte israélienne, ils faisaient des démos, mais c'était incroyable, j'avais été les voir, et ils avaient un chargeur, ils te rechargeaient le téléphone de 0 à 100% en 2 minutes.
Ouais.
Vraiment, tu le voyais, enfin, j'ai vu de mes yeux, quoi. Le téléphone était vide, il le met dans son truc et tu vois la jauge qui se remplit à vue d'œil et tout, ça fonctionnait. Et je crois qu'ils étaient en discussion avec Samsung, c'est ce qu'ils m'avaient dit à l'époque, mais c'était, je sais pas, 5 ans ou même peut-être un peu plus. Je crois qu'ils font des recharges pour les voitures électriques également, mais sauf qu'elle a jamais été commercialisée, leur batterie. Tu te dis, bah oui, c'est probablement pas parce que effectivement, est-ce que ça se recharge en deux minutes, mais au bout de 10 utilisations, le machin, il peut être en usage, tu vois.
C'était des batteries en lithium ou c'était des batteries
C'était des batteries. Alors attends, il y avait une techno supplémentaire, c'est des batteries organiques ou je sais plus. Enfin, il y avait un truc. Ils avaient ajouté.
Il y avait du sang dedans.
Il y avait du sang. Oui, c'est ça. La batterie Usain Bolt.
On va évoquer maintenant un sujet que tu as un peu creusé.
Ouais.
Anthony, c'est bien tous ces milliardaires de la Silicon Valley, hein, les Jeff Bezos, les Mark Zuckerberg, et puis tous les autres, hein, Elon Musk aussi, qui investissent, on le sait, dans des projets faramineux, hein, l'espace, les automobiles, etc. Enfin bref, voilà. Mais aussi dans tout ce qui est transhumanisme pour essayer de reculer, en fait, l'issue fatale
qui
nous arrivera à tous, c'est-à-dire la mort.
C'est le fantasme ultime, l'immortalité. C'est vrai, quand t'as 200 milliards de dollars et que t'es déjà allé dans l'espace, il y a un moment, tu te dis, bon, bah, qu'est-ce que je fais maintenant? Voilà, qu'est-ce que je fais?
Donc, j'ai un magasin de bonbons, ça j'en ai 18, ça suffit.
Donc, si je pouvais vivre le plus longtemps possible et en meilleure santé possible, évidemment, ce serait intéressant. Et donc, effectivement, alors c'est pas moi, hein, mais c'est la MIT Technology Review qui est en général assez bien documentée, qui nous révèle l'existence d'une entreprise qui s'appelle Altos Labs, dans laquelle a investi notamment Jeff Bezos, mais aussi Yuri Milner, par exemple, qui était l'un des premiers investisseurs de Facebook, etc. Et qui est une entreprise qui a pour but de faire reculer la mort. Alors, ils sont spécialisés dans ce qu'on appelle la programmation cellulaire. Et je vous la fais courte, mais en gros, le principe, c'est de rajeunir les cellules en laboratoire en leur ajoutant certaines protéines. Et en gros, tu vas rebooter la cellule. C'est complètement fou, mais en gros, tu vas la faire revenir à son état originel. Et donc, tu vas combattre le processus naturel.
Les antivax vont adorer.
Oh, probablement.
Ils vont adorer ce truc-là.
C'est clair. Non, mais alors là, je pense que tu peux alimenter des dizaines de théories du complot derrière et tout. Enfin, il y a tout le truc derrière. Enfin, après, l'idée est complètement folle. Alors, faut bien préciser qu'on est dans la deep tech ou la deep tech, c'est-à-dire des projets qui sont très embryonnaires, dans lesquels sont injectées des sommes assez folles, mais en se disant, parce que c'est de l'argent de poche pour Jeff Bezos, il se dit, bon, bah voilà, je mets quelques millions, mais si à terme ça peut me faire vivre jusqu'à 200 ans, bah écoute, ça vaut peut-être le coup. Mais c'est hyper intéressant de voir que ce labo, alors je crois qu'ils ont levé 250 millions de dollars ou quelque chose comme ça, ils sont en train d'embaucher à tour de bras, y compris des personnalités du monde scientifique, un prix Nobel de médecine par exemple, et il y a des gars interrogés dans l'article qui expliquent qu'on leur a proposé des salaires 5 à 10 fois supérieurs à ce qu'ils gagnaient par ailleurs, des salaires à 1 million de dollars pour des chercheurs par an, pour travailler sur cette hypothétique immortalité ou cure de jouvence, on va le dire comme ça, sachant que c'est un exemple parmi d'autres. Hein, il y a beaucoup d'entreprises de la Silicon Valley, de biotech, dans laquelle investissent tous ces milliardaires qui travaillent sur ce sujet. On a Unity Biotech, par exemple, sans parler même des entreprises qui te proposent, alors c'est l'autre délire des transhumanistes, mais c'est de transférer le contenu de ton cerveau et ta conscience, mettre des gros guillemets à conscience,
sur clé USB,
dans le cloud, voilà, comme si tu pouvais balancer tes souvenirs.
C'est pas bon, tu meurs deux fois, exactement.
Non, mais tu te dis quand même, t'arrives dans des trucs qui sont complètement vertigineux, quoi.
Bien sûr, évidemment, mais je peux comprendre ces gars-là. Ils ont le monde à leurs pieds. Il y a rien qui leur résiste. On est d'accord. Il n'y a qu'une chose résiste, c'est la maladie et la mort.
Ouais.
Donc ils se disent, combien est-ce qu'on peut avancer ? Et ils doivent s'entourer des meilleurs,
bien sûr,
qui pour certains doivent leur peut-être promettre des innovations, des ruptures médicales qui font qu'ils pourraient gagner quelques dizaines d'années ou quelques années d'espérance de vie. C'est logique.
Je ferais la même chose.
Non, mais bien sûr. Enfin, le fantasme d'Elon Musk, c'était d'aller sur Mars et de se lancer dans l'espace. Il a réussi. Donc il se dit, pourquoi je réussirais pas dans le domaine de la médecine,
aucune limite. Il y a quelques années maintenant, mais c'était un responsable, je crois que c'était le responsable de la partie investissement chez Google, qui disait que il serait pas complètement, enfin que ce serait même assez logique que l'être humain puisse vivre jusqu'à 500 ans. Enfin, lui, il avait déjà cette vision là, quoi. Après, c'est voilà, est-ce qu'on a envie de vivre,
comme disait
Woody Allen, l'éternité c'est long, surtout vers la fin, tu sais. Mais c'est marrant parce que on en discutait un peu dans la rédaction. Là, je reparlais des 500 ans du gars de Google qui disait 500 ans. Et je dis, 500 ans, mais moi j'ai pas envie de vivre jusqu'à 500 ans. Je dis, mais attends, si, c'est dingue. dingue. Attends, ouais. Si t'es en, à partir du moment où t'es en bonne santé,
je trouve ça
incroyable.
Et on n'a pas les mêmes vies qu'eux. Ils ont ressources limitées. Ils
font bien sûr.
C'est aussi sympa, je pense. Ouais, ils ont plus de choses à faire que
où
nous.
T'as envie de vivre éternellement à ce moment-là, ouais, quand t'as tout, effectivement.
Oui, c'est sûr. En revanche, 500 ans dans le RER,
c'est plus compliqué.
Ça mettra à mal le système des retraites de Macron, en plus.
Ah oui, là, il va falloir une vraie réforme.
Il va falloir rebooter le truc, quand même.
Si tu dois bosser, ouais, parce qu'il faut bosser.
Allez, on va dire tu bosses 100 ans. Ouais. Que, ok, c'est bon. Et après, t'as
400 ans de retraite.
Il
va falloir des cotisants.
Il va falloir des. Trouver un système quand même. Hein.
Ouais, ça va être un peu compliqué, ouais, je pense.
C'est
clair.
Mais c'est Elon Musk qui a un truc. Il disait finalement, on pourrait tendre vers une humanité où les gens ne travaillent pas.
C'est une théorie récurrente. De salaire pour tous, voilà. Universel.
Avec des robots qui feraient des tâches, on va dire, qui seraient fastidieuses, etc. Alors, il y aurait toujours une élite qui travaillerait parce que forcément, il en faut, mais une grande partie de la population en fait pourrait ne plus travailler et vivre correctement
pendant 500 ans.
On est allé loin là, hein, dites-moi.
On est parti là.
On a parlé de retraite et d'Emmanuel Macron.
C'est rare dans deux coups. Je me mets.
Attendez, j'ai ma dernière petite news sur Amazon qui veut lancer sa télé, mais j'ai presque honte.
On revient sur Terre.
Ouais, là, ça va être un petit peu moins fou. Hein.
Ouais, c'est toujours Jeff Bezos. C'est toujours Jeff Bezos, mais voilà.
Ouais, c'est clair. Texte, quoi. Voilà. Bon, il doit se dire, ah oui, une télé Amazon. Ouais, allez-y, attendez, moi je vais me faire une prise de sang. Ouais. C'est plus sympa. Bon, cette télé Amazon.
Ouais, bah oui, alors c'est intéressant aussi, je trouve, Amazon qui veut être de toute façon de plus en plus au cœur de nos vies, au cœur de nos maisons et au cœur de notre salon. Et donc, alors c'est Business Insider qui explique que depuis 2 ans, Amazon travaille sur un projet de télé, donc des télés, on pourrait acheter des télés Amazon, alors qui ne seraient pas construites par Amazon, c'est TCL, le groupe chinois qui les fabriquerait, mais qui seraient conçues et designées et pensées par Amazon. Ils ont déjà fait ça en Inde, ils avaient lancé une expérimentation qui ne s'était pas très bien passée. Et donc, ce sont des télés qui, notamment, intégreraient l'assistant vocal, hein, de toute façon, qu'ils mettent absolument partout. Mais je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, on voit maintenant tu as le frigo avec Alexa, tu as le micro-ondes Alexa, la pomme de douche et les toilettes. On est au CES de Las Vegas, tu sais, tu as les toilettes avec Alexa, machin, etc. Là, je me dis que ça a peut-être une utilité. C'est-à-dire, sur la télé, on peut imaginer une télé que tu pourrais piloter à la voix, tu lui demandes de te lancer le replay ou de quoi je me mail, elle va comprendre directement, t'as pas besoin de t'embêter avec la télécommande.
Ça existe déjà, hein, les assistants vocaux sur les télés, il y en a.
Oui,
hein.
Souvent Google Assistant intégré, et par exemple dans le cas d'Amazon, je crois que, j'espère pas me tromper, que le Fire TV existe dans une version qui répond à la voix, qui permet d'allumer la télé.
Là, ce sera intégré directement.
Il y a des télés TCL avec Alexa intégré qu'on peut activer, en fait.
Voilà, mais là ce serait...
Là, ça serait, oui, ce serait complètement intégré, leur interface.
Exactement. Made in Amazon, 100%, donc voilà. Et avec aussi la possibilité pour Amazon, enfin c'est tout l'intérêt pour eux, de pousser leur propre contenu, donc de pousser Amazon Prime notamment.
C'est intéressant. Et puis te faire livrer ta télé en 2 heures, c'est cool.
C'est pas mal. Ouais, effectivement, c'est intéressant aussi. Ouais. Non, il y avait un papier très intéressant là cette semaine dans le Figaro qui parlait de la bataille des télécommandes et du fait. T'as vu ça,
j'ai vu ça, ouais, super.
Que l'audiovisuel français avec les chaînes traditionnelles s'inquiétait parce que le design des nouvelles télés, Samsung notamment, dans les télécommandes, t'as plus la numérotation, t'as plus les boutons avec les numéros. Tu as maintenant, t'as le bouton Netflix, le bouton Amazon Prime, le bouton Rakuten, et c'est tout. Et en fait, du coup, effectivement, il y a une sorte de déclassement des chaînes de télé traditionnelles qui vont se faire en fait effacer.
Ça, on est d'accord, c'est inexorable.
Ah mais oui,
façon,
mais
hein.
C'est compliqué d'imaginer un bouton pour toutes les chaînes françaises sur la télécommande. Il faut payer, hein,
c'est
évidemment.
Clair.
Ils font pas ça gratuitement. Hein. Samsung et compagnie.
Bien sûr,
ils prennent un chèque de Netflix et de Disney.
Et quand on sait que Samsung en plus pousse son propre système, son interface, quand on allume sa télé, on amène de la pub. C'était une grosse discussion d'ailleurs cet été. Il y a plein de gens qui étaient mécontents de voir de la publicité apparaître sur l'interface des Samsung.
Ils ont arrêté, non? Ils ont dit qu'ils allaient arrêter.
Pas sur les téléphones.
Ah oui, sur les smartphones.
Mais sur les télés, ils continuent.
Oui,
c'est fou. T'achètes ta télé, normalement, t'es tranquille.
Mais t'as de la pub.
Mais t'as de la pub en plus.
Ça me rappelle le modèle économique des PC. Je ne sais pas si vous vous souvenez, un peu moins maintenant, mais il y a des constructeurs qui vous installaient des millions de logiciels, les antivirus, les trucs et tout, qui vous relançaient tout le temps avec des pop-up pour vous abonner, etc. C'était le deuxième modèle économique en fait.
Ça me fait penser, j'avais pas du tout prévu de dire ça, mais ça me fait penser. Vous vous rappelez du Fire Phone, le téléphone d'Amazon?
Oui.
Ils avaient justement ce modèle économique hyper original de dire payer 50€ de moins, mais vous avez des pubs sur l'écran de verrouillage.
Oui, c'est ça.
Peut-être qu'ils feront un truc comme ça sur les télés aussi.
Tu payais moins cher,
mais t'avais la pub.
Pour 50 balles, tu n'avais plus de pub. Bizarre.
C'est toujours très original.
Bon, c'était top. Bah écoutez, j'espère que vous avez passé tout comme nous un bon moment. Merci beaucoup Anthony Morel, qu'on retrouve le matin sur BFM Business, l'après-midi chez Estelle sur RMC. Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Sur BFM TV aussi, régulièrement.
TV. Et puis voilà, donc maintenant
la tournée des popotes.
Dans De Quoi Je Mêle. Et ben voilà. Et puis merci à Nicolas.
Merci
beaucoup. Nicolas Lelouch, fidèle bien évidemment, journaliste à 01net.com. Vous restez avec nous. On va parler maintenant de transmission par satellite. Cette rumeur concernant l'iPhone 13 avec peut-être une connexion satellite possible pour des appels d'urgence. Alors on n'a pas Tim Cook, hein, mais on a, vous allez voir, un invité passionnant sur ce sujet qui est un vrai spécialiste du satellite et à mon avis, il en sait plus que Tim Cook sur le sujet. Il nous rejoint dans un instant. À tout de suite.
De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV. BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle, François Sorel.
De quoi je me mêle, toute l'actualité des nouvelles technos, vous le savez, on est là tous les week-ends, merci d'être là. On va maintenant évoquer les satellites et la transmission par satellite. C'est un sujet qui est, personnellement, je trouve fascinant, avec en plus tous ces projets, hein, Elon Musk et son Starlink, il y a aussi OneWeb, un projet un peu plus européen, et puis il y en a beaucoup d'autres. Et puis après, il y a des actualités liées aux satellites qui peuvent interpeller, comme par exemple cette rumeur concernant l'iPhone 13. Je vous rappelle que au moment où on enregistre cette émission, l'iPhone 13 n'a pas été annoncé, mais il y a une rumeur depuis quelques jours qui plane concernant une éventuelle transmission de l'iPhone 13 par satellite pour des appels d'urgence. Et je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que techniquement, c'est possible ça? Est-ce que technologiquement, un petit appareil peut communiquer avec un satellite comme ça pour même des appels d'urgence? Et bien, nous avons un spécialiste qui est avec nous en studio, qui est venu spécialement de Toulouse pour nous. Bonjour Alexandre Tisserand.
Bonjour François.
Merci d'être avec nous, vous êtes le CEO de Kineis.
Tout à fait.
Parce qu'on parle beaucoup de l'expertise spatiale des Américains, mais franchement, historiquement, la France est plutôt bien placée, l'Europe, hein, avec Toulouse, bien sûr, Ariane Espace. Il faut savoir qu'il y a un pôle Space Tech à Toulouse qui est impressionnant, et vous en faites partie. Kineis, vous allez un petit peu nous expliquer ce que vous faites, d'autant que vous êtes vraiment dans l'opérationnel, hein, vous avez des projets monstrueux, vous avez levé 100 millions d'euros l'année dernière. Alors présentez-nous un petit peu ce que vous faites.
Oui, bien sûr. Donc Kineis, c'est un opérateur satellitaire, fournisseur de connectivité globale pour l'Internet des objets. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on connecte n'importe quel objet autour de la planète, en tout point du globe, d'un pôle à un autre, du désert jusqu'au milieu des océans, pour les suivre et faire remonter à peu près n'importe quelle information. Donc concrètement, c'est des petits objets qui vont se placer sur des animaux sauvages historiquement, sur des bateaux de pêche, sur des containers, des wagons, même monitorer des pipelines, ce qu'on veut, et qui vont donc émettre régulièrement des petites infos, vraiment en mode Internet des objets, IoT, sur les satellites qui vont les capter et redescendre
l'information
chez nous à Toulouse.
Pour les géolocaliser, par exemple.
Pour les géolocaliser, pour, par exemple, si vous faites en tant que scientifique du suivi d'animaux sauvages, vous allez remonter une position, mais aussi peut-être l'environnement, donc la lumière, la pression, l'humidité. Vous mettez les capteurs que vous voulez,
oui, c'est ça,
dès lors que l'objet est assez petit, et vous remontez cette information-là.
Ça peut avoir plein d'utilités dans l'agriculture aussi.
Bien sûr,
enfin,
tout à fait. Suivi d'animaux des vaches, le monitoring de silos de grains. Enfin, il y a énormément d'applications sur ce sujet.
Donc il faut un petit objet, bien sûr, sur l'animal. On prend l'exemple de l'animal. Hein. Par exemple, je veux suivre, je sais pas moi, des lions.
Par exemple,
donc je leur mets un collier.
Voilà.
Avec un gros appareil, ça ressemble à quoi en fait votre petit objet?
Sur les animaux, ça dépend vraiment des animaux. C'est-à-dire qu'on va avoir le coucou qui fait 100 grammes, on va avoir une toute petite balise qui fait 3,5 grammes, c'est la plus petite qui existe aujourd'hui. L'ours polaire, à l'inverse, il va avoir un collier qui fait quelques kilos. Il y a une règle qui dit qu'il ne faut pas que ça fasse plus de 3% du poids de l'animal, parce que sinon après ça le dérange. Et du coup,
ça le dérange, oui, et puis il va essayer de l'enlever.
Voilà,
enfin, voilà.
On l'observe mal. Donc ça dépend un peu des objets. Là par exemple, j'ai avec moi le petit module qu'on fabrique qui fait 2 cm par 3, on prend ça, on met une batterie, une antenne et puis un casing et ça fait un objet qui communique par satellite. On a même un objet encore plus petit qui est cette petite puce-là qui fait 7 mm de côté, qui est encore plus intégré que le module et qui permet de faire les mêmes fonctionnalités.
D'accord.
Et donc voilà, donc ça se met sur les animaux, ça se met sur, comme je disais, des flux logistiques, ça se met même sur des balises qu'on peut développer pour des individus, par exemple des randonneurs qui vont partir dans l'Himalaya pendant plusieurs semaines, ils peuvent avoir une petite balise qui leur permet de émettre régulièrement.
Avec une précision de géolocalisation qui est bonne ?
Et alors, ça dépend, oui. C'est-à-dire que soit on peut décider que c'est une puce à l'intérieur, typiquement GPS ou Galileo, qui va faire le calcul de localisation et puis la remonter. Mm-hmm. Donc là, c'est la pression de la puce en question. Mais ça consomme de l'énergie. Et donc, dans l'Internet des objets, le gros sujet, c'est la consommation d'énergie. Et donc, si on veut optimiser cette consommation d'énergie, on peut enlever cette puce-là. Et c'est le satellite qui va faire le calcul de la position à la place de l'objet. Parce que les satellites sont défilants, il y a un effet Doppler, et cet effet Doppler nous permet de calculer une position qui est moins précise, qui est de l'ordre de 100-150 mètres. Mais bon, si vous suivez un ours polaire sur 10 ans, c'est pas très grave.
C'est pas très grave.
Après, si vous suivez un conteneur, peut-être que ce sera plus gênant, ça dépend un peu de vos usages. Donc là, il y a un compromis à faire entre la précision et la consommation d'énergie, et c'est tout l'objet de notre accompagnement dans tous les constructeurs de terminaux qui veulent en développer.
Très bien, on parle beaucoup de Sigfox, de LoRa, vous êtes un peu... Le Sigfox ou le LoRa met du satellite avec une couverture mondiale d'un coup.
Exactement.
Parce que, évidemment, le satellite a une. Enfin, si on arrive à. Là, je crois que vous vous apprêtez à en lancer 25.
Oui, tout à fait. En fait, aujourd'hui, on a 8 satellites qui sont sur des orbites polaires, donc qui passent par les pôles.
Oui.
Et donc, qui couvrent vraiment toute la Terre. Et on va en lancer 25 supplémentaires, donc dans 18 mois. On a communiqué hier sur le fait qu'on allait partir avec un lanceur néo-zélandais qui s'appelle Rocket Lab. Et donc, on va lancer ces 25 nanosatellites qui font 30 kilos chacun, donc qui sont assez petits, qui va permettre, du coup, de. Bah, voilà, on voit l'animation, de couvrir vraiment l'entièreté de la Terre pour avoir du quasi-temps réel en tout point du globe sur cette connectivité Internet des objets.
Ouais, c'est passionnant hein, tout ça. Hein. Quand on voit les échelles par exemple de Starlink, qui est un autre projet complètement faramineux, avec 30 000 satellites pour couvrir le monde entier et avoir une qualité fibre optique à peu près partout, c'est dingue.
Non, exactement. Et alors, c'est la comparaison avec LoRa, par exemple, était intéressante. C'est-à-dire que nous, par rapport à Starlink, par exemple, on va être un peu comme LoRa par rapport à un Bouygues, un SFR, un Orange. C'est-à-dire qu'on va se spécialiser dans la connectivité pour l'Internet des objets. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? On pourrait se dire qui peut le plus, peut le moins. Si je fais du haut débit, de la 4G avec du Starlink, alors je vais pouvoir connecter n'importe quel objet. En fait, oui, mais non, parce que tout réside dans le terminal. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure sur la consommation d'énergie. En fait, votre iPhone aujourd'hui, il se connecte au réseau 3G, 4G, ça marche très très bien, mais au bout d'une journée, vous parliez de la recharge tout à l'heure, bon, il faut les recharger assez régulièrement. Évidemment, si vous suivez un animal ou un conteneur, vous n'allez pas le recharger tous les jours.
Bah non, on ne peut pas lui dire, tu viens à côté d'une prise.
Exactement.
C'est pas possible.
Et donc,
après, il y a peut-être le solaire aussi, non, qui peut marcher.
Tout à fait, le solaire peut être une solution à ça. Malgré tout, les quantités d'énergie dont on parle, on a quand même besoin de quelque chose d'un peu nouveau. Et donc, c'est là où Sigfox, LoRa et nous, avec le spatial, on apporte une technologie qui est différente, c'est-à-dire que tout ce qui est radiofréquence, les formes d'ondes, le protocole, tout est optimisé pour vraiment dépenser le moins d'énergie. On envoie des tout petits paquets avec très peu de protocoles.
Avec des autonomies qui peuvent aller jusqu'à combien en fait,
c'est plusieurs années. La plus grande autonomie qu'on connaît, c'est 12 ans parce qu'on a suivi une cigogne pendant 12 ans et en fait, ça s'est arrêté parce que la cigogne est morte.
Bah, mais, oui, la pauvre.
Voilà.
Déjà, ça vit 12 ans une cigogne.
Mais,
c'est fou ça.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Incroyable.
Je ne savais pas.
Mais ouais. Et vous avez su où elle est morte, en fait, en plus.
Et oui, tout à fait. Donc, elle est décédée en Suisse. Elle faisait ses migrations depuis la Suisse jusqu'au Sahara, en passant par l'Espagne.
Elle a fait une retraite dorée, en plus, en Suisse. C'était la classe, quand même.
N'est-ce pas ?
Bon, ne nous égarons pas, Alexandre. Alors, vous, c'est super intéressant, tout ça, parce qu'on voit qu'il y a une accélération du Space Tech. Juste une petite question. Vous vous apprêtez à lancer donc, 25 satellites. Vous avez dit que vous avez pris un lanceur néo-zélandais. Pourquoi pas un lanceur français? Parce que vous êtes une boîte française.
Tout à fait.
C'était compliqué, économiquement, c'était pas viable. Quelles ont été les contraintes?
C'est essentiellement des raisons techniques, en fait. C'est-à-dire que lancer une constellation, alors on parle beaucoup d'Elon Musk, de Bezos, et voilà, mais en fait, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, lancer des constellations, c'est assez nouveau malgré tout. Donc, SpaceX, il a son propre lanceur, il fait ce qu'il veut. Mais nous, on a donc ces 25 satellites qui sont répartis en 5 orbites polaires, donc qui tournent autour de la Terre, répartis comme des quartiers d'orange, si vous voulez. Et donc, il nous faut lancer 5 satellites par 5 satellites sur ces 5 orbite. Comme ils sont petits, ils font 30 kilos, on lance 150 kilos à chaque fois, on ne peut pas remplir un lanceur européen.
Oui, qui est un gros mammouth qui,
voilà.
Lui...
Sans même parler d'Ariane 5, un Vega, à l'altitude où on va, 650 km, ça embarque une tonne 5. Donc nous, on remplit 10% du lanceur, donc on ne va pas se le payer.
Non.
Donc on peut faire, mais il faudrait partir en passager d'un plus gros satellite qui va sur cette orbite-là, un peu le Airbnb de la fusée.
Oui, c'est-à-dire que là, il faudrait qu'il y ait de la place dans un conteneur, quoi, en gros.
Exactement. Voilà. Et alors, autant sur une orbite, on peut avoir la chance qu'il se trouve que par hasard, il y en a un qui tire sur la bonne orbite. Mais les 5 orbites, dans le délai de 9 mois qu'on s'est fixé pour lancer l'entièreté de la constellation,
il n'y avait que Rocket Lab, en fait.
Et donc, du coup, il fallait prendre des micro-lanceurs, effectivement, qui sont des fusées beaucoup plus petites. Pour le coup, on remplit complètement. Donc, on décide de quand on part, on décide de où on part. Et c'est cette flexibilité-là qu'on est venu chercher avec un lanceur comme Rocket Lab.
D'accord. Bon, bah, peut-être que ça inspirera des lanceurs français de se mettre sur ce marché.
Il y a des projets en France, en Allemagne.
J'imagine qu'il y a un business monstrueux qui doit commencer à naître.
Dans quelques années, on devrait voir ça en Europe.
Alors Alexandre, cette rumeur concernant l'iPhone 13, vous l'avez suivi tout comme moi.
Bien sûr.
Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il est possible, à votre avis, avec un téléphone qu'on a dans la poche, on est dans une zone où il n'y a pas de réseau, ça arrive encore, hein, des zones blanches, en pleine mer, on a un truc, un danger, etc. On est dans une situation de détresse. Est-ce qu'on pourrait, avec ce téléphone, passer un coup de fil ou envoyer des messages via un satellite ?
Alors, c'est compliqué et en fait, ça va dépendre du design du téléphone. Et c'est là où, quand on parle d'Apple, on se dit que la rumeur est simplement une rumeur. Aujourd'hui, il existe des systèmes satellitaires où on a des téléphones satellites. Hein, ça existe depuis longtemps. Tout le monde a peut-être en tête les images de téléphone avec les grandes antennes qui se déploient. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces antennes-là ? Parce que les satellites, ils sont loin. Quand vous appelez à votre téléphone mobile, l'antenne relais, elle est à centaines de mètres, voire quelques kilomètres tout au plus. Là, les satellites, ils sont entre 500, 1000, 1500 kilomètres. 1500 kilomètres, c'est Oslo, c'est Lisbonne, c'est Tunis. Donc imaginez, vous êtes là avec votre téléphone et votre antenne relais...
Bon,
c'est quand même assez loin. Donc là, on se dit, il faut envoyer un peu de puissance. Et donc, soit c'est le satellite qui est très très gros, qui a énormément de puissance, qui permet de récupérer l'information de manière très fine, soit à l'inverse, c'est le téléphone, soit c'est un peu les deux. Bon, les satellites, ils ont des ressources limitées, même avec l'évolution des technologies, ils n'ont pas la capacité de recevoir toute cette puissance-là. Et à un moment, il y a la physique qui joue, c'est-à-dire que vous êtes sur des fréquences qui nécessitent une certaine longueur d'onde et donc une certaine longueur d'antenne. C'est de la même manière que sur votre voiture, vous avez toujours, malgré des décennies d'innovation technologique, une petite antenne qui sort derrière pour écouter la radio, parce que c'est la fréquence qui veut ça, malgré toute l'énergie que vous avez à bord. C'est une question de...
Et oui, si on n'a plus cette antenne, bah, on capte moins bien.
Voilà, exactement. Donc il n'est pas impossible que demain, sur des fréquences qui seront différentes, avec des gestions de puissance qui seront différentes, on arrive à faire ce genre de choses. Mais aujourd'hui, ça semble un peu compliqué. Et alors, cette rumeur, en plus, elle est basée sur... Il y a un autre indice qui nous dit que ça n'est qu'une rumeur. Elle est basée sur ce blogueur chinois qui a vu que dans la chaîne d'approvisionnement des iPhone 13, il y avait une petite puce, donc qui ressemble à celle-là, mais qu'en est une autre, de Qualcomm.
Oui, tout à fait.
Qui implémente...
Une modification d'une puce connue, je crois.
Qui implémente une nouvelle bande de fréquence, la bande N53, pour être très précis, qui se trouve être une bande qui appartient aujourd'hui à un opérateur télécom qui s'appelle Globalstar. Globalstar, c'est un opérateur satellitaire. Ils ont 48 satellites. Et eux, typiquement, ils ont des téléphones satellites avec des antennes qui se déploient. Donc évidemment, on imagine que la rumeur va bon train. Voilà. C'est assez logique de penser ça. Pour autant, quand on creuse un peu, de quoi on se rend compte ? Donc il y a ce sujet physique qui quand même va assez rapidement limiter l'usage. Et on sait bien qu'Apple, ils développent des produits de qualité. Donc ils ne vont pas sortir quelque chose qui marche à peu près. Ils vont sortir quelque chose qui marche parfaitement.
Et puis ils ne vont pas faire... Ils vont pas sortir un iPhone avec une antenne de 2 mètres.
Non, ça n'arrivera pas.
Ça, c'est pas possible.
Et il se trouve en fait, quand on creuse, que Globalstar, cette petite bande-là, en fait, à l'UIT, donc, qui est l'Union Internationale des Télécommunications, qui est vraiment l'ONU des fréquences, si vous voulez, qui règle toute la planification des fréquences.
Qui est l'ARCEP au niveau mondial.
Exactement. Quoi. Ils ont poussé pour que cette petite bande-là, en fait, qui est aujourd'hui une bande réservée aux satellites, puisse être utilisée en terrestre. Donc en fait, c'est le mouvement inverse qui s'opère. C'est-à-dire que Globalstar essaye de monétiser sa bande satellite qui est sous-occupée dans des réseaux terrestres pour la 5G. C'est-à-dire qu'ils veulent louer en fait leur bande à des opérateurs télécom terrestres pour la 5G, donc faire des revenus comme ça. Et donc, nous, enfin, notre analyse, c'est partagée par quelques techniciens sur le net quand on creuse un peu, c'est que, en fait, c'est simplement Qualcomm qui implémente toutes les fonctionnalités 5G, c'est normal.
Et qui s'ouvre des bandes de fréquences supplémentaires.
Qui permettront à un iPhone peut-être de communiquer sur ces bandes, mais sur
des réseaux terrestres.
Des réseaux terrestres, en réalité. Et en reversant une redevance à Globalstar qui, lui, possède ces bandes.
C'est intéressant tout ça. Vous dites qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible, mais est-ce que demain, ça le sera ? Est-ce qu'on peut imaginer, dans quelques années, avoir des satellites hyper puissants, à des orbites relativement basses, qui pourraient envoyer tellement de puissance, finalement, qu'un téléphone normal pourrait le recevoir, et à ce moment-là, concurrencer les opérateurs télécoms ? Est-ce que c'est quelque chose, à votre avis, qui est envisageable ?
Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas impossible. Et là vraiment c'est toute la recherche dans les antennes et les puissances acceptables aussi en émission, parce que Pour avoir des plus petites antennes, il faut augmenter la fréquence, mais après, vous vous retrouvez dans des fréquences qui sont assez hautes. Ça chauffe, ça rayonne. Vous n'avez pas envie de transformer votre téléphone en micro-ondes.
Et donc, non, surtout là, si on le tient à l'oreille.
Bon, exactement. Et donc là, il faut trouver le bon compromis. Donc, je ne suis pas assez spécialiste en RF. Je n'ai pas fait les recherches moi-même, mais effectivement, on sait qu'Apple, depuis 2019, a embauché une petite équipe pour réfléchir sur la connectivité satellitaire. Donc, ils s'intéressent de près au sujet. Donc de là à ce que quelque chose sorte, on peut l'imaginer. Je pense que c'est pas tout de suite aujourd'hui que ça va se passer, mais je pense que dans un futur qu'on connaîtra, c'est quelque chose qui n'est pas complètement possible.
Et quand vous voyez par exemple le projet, mais c'est plus qu'un projet, c'est une réalité aujourd'hui, Starlink, vous vous dites que quand Elon Musk dit voilà, je vais lancer 30 000 satellites pour avoir une connexion de très très haut débit partout dans le monde, c'est quelque chose, c'est du fantasme ou c'est totalement possible?
Non, c'est possible. Après, on peut se poser la question de l'intérêt, de l'usage de faire ce genre de constellation. Enfin, ils sont des ingénieurs absolument brillants qui réfléchissent sur des problèmes complexes. On pourrait se dire qu'en termes de hiérarchie de problèmes complexes, aujourd'hui, ceux sur l'urgence climatique sont peut-être plus importants que les constellations de satellites. Mais toujours est-il que oui, c'est quelque chose. Aujourd'hui, ils en ont lancé 1500, je crois, quelque chose comme ça. Il y a un service qui est disponible. Vous pouvez acheter un kit.
Même en France, d'ailleurs. Dans certaines régions de France, on peut tester Starlink.
Donc, on parlait d'antenne. Là, aujourd'hui, typiquement pour capter Starlink, il faut la petite antenne motorisée, la parabole qui est grande comme ça, qu'on pose dans son jardin.
Et ça ne marche, ça marche pas en mobilité, ce truc-là.
Non,
on est d'accord.
Et puis, vous n'allez pas vous trimballer votre antenne comme ça avec vous dans la poche ou sur la voiture. Donc, voilà.
Non.
Donc ça, il y a quand même cette limitation-là aussi sur le satellite qui fait que c'est quand même aussi possiblement quelque chose d'hybride. Nous, c'est ce qu'on fait avec l'Internet des objets, c'est-à-dire qu'on crée des devices, des terminaux qui connectent à la fois un réseau terrestre quand on est emporté, parce qu'au milieu de la ville, le satellite, c'est pas terrible, il y a des immeubles, on le voit pas très bien.
Bien sûr.
Ça marche pas en ligne d'or. Et quand on sort des zones connectées, donc sur 80% de la surface du globe en réalité, là, on se connecte au satellite. Et donc, on crée des devices qui, de manière transparente pour l'utilisateur, qui sont hybrides.
Qui sont intelligents.
Qui sont bimodes.
Voilà, c'est ça.
Et donc, on peut imaginer peut-être que les téléphones, ce sera comme ça. On peut aussi imaginer que on développe aussi cet outil-là pour l'IoT, mais on pourrait l'imaginer pour la téléphonie mobile, avoir un add-on, un device à côté, qui, sans être une grosse antenne parabolique comme celle de Starlink, est un petit objet auquel on se connecte en Bluetooth, par exemple, et qui, pour le coup, vous le mettez sur le toit de votre voiture, voire s'intégrer dans la voiture, et puis là, vous avez une connectivité satellitaire en vous connectant via cette passerelle, par exemple. Bon, on peut imaginer plein de choses comme ça.
On pourrait donc avoir une connexion, on va dire, de qualité, même en mobilité, finalement, avec un satellite, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit, la télé, tous ces services-là, il faut, ça se règle au millimètre près.
Oui, bien sûr, mais effectivement. Et en fait, mais la télé aujourd'hui, c'est les satellites géostationnaires.
Oui, voilà, c'est ça, qui sont à 36 000.
Précis,
voilà,
et ils ne bougent pas par rapport au sol. Ouais, il faut être très directionnel.
Ouais, ouais.
Là, l'idée de Starlink, c'est qu'on a tellement de satellites qu'en permanence, vous en avez 40 au-dessus de la tête, donc vous n'avez pas de question de
direction. Et je suis persuadé que Elon Musk, dans quelques mois ou quelques années, va nous sortir un appareil encore plus miniaturisé. Et peut-être qu'il a ça aussi dans l'esprit, qu'avec sa constellation de 30 000 satellites, demain, on pourrait avoir de la mobilité, enfin de l'Internet en mobilité aussi avec ce service-là.
Possiblement. Ouais. Après, il reste la question ensuite économique.
Si vous étiez un opérateur télécom, vous inquiéteriez de tout ça ou pas?
Je viens très, très, très près. Mais ils le font déjà. Moi, je vais à... Je ne suis pas allé cette année à cause du Covid, mais à Washington, tous les ans, il y a un salon qui s'appelle Satellite au mois d'avril, qui est le grand rassemblement du monde.
Où là,
on a toute
la puissance qui est là-bas.
Exactement.
Quoi.
Et il y a 3 ans déjà, j'ai vu Orange, Bouygues.
Ils jettent un œil là-dessus.
Ils n'étaient pas nombreux, mais ils viennent voir. C'est normal. C'est potentiellement, comme vous dites, une menace de taille. Donc, je crois plutôt à l'hybridation, encore une fois, parce que le satellite en indoor...
Ici, typiquement, dans ce studio...
Oui, ça n'a pas marché.
Ça n'a pas marché.
Donc voilà, mais il y aura peut-être un partage de revenus à un moment qu'il va falloir faire. Et là, du coup, il va falloir réfléchir un peu à l'équation économique de tout le monde.
Et puis, qui dit que demain, les GAFA ne lanceront pas leur propre... services par Internet directement
pour se connecter. Ils ont commencé à réfléchir. Facebook, comme vous le savez, ils ont un peu mis le pause parce que c'est des investissements colossaux et donc ils ne sont pas tout à fait sûrs que l'équation économique boucle, mais en tout cas, techniquement et intellectuellement, c'est des choses qu'ils peuvent penser. Ouais.
Merci beaucoup Alexandre, c'était très intéressant et voilà, c'est bien aussi de tordre un peu le cou aux idées reçues. Alors, rappelons qu'on enregistre ce rendez-vous avant l'annonce de l'iPhone 13. Si maintenant ils y arrivent, eh ben écoutez, vous reviendrez pour nous expliquer comment ils font.
Pourquoi j'ai fait une mauvaise analyse. Parfait.
Oh, je ne pense pas que vous vous trompiez quand même. Merci beaucoup et rappelons que vous êtes le CEO de Kineis parce qu'on a aussi des pépites pépite SpaceTech en France, et ça fait vraiment plaisir de vous avoir reçu. Merci beaucoup.
Merci beaucoup François.
Ce De Quoi Je Me Mêle est terminé. Je vous rappelle aussi que vous pouvez retrouver tout le contenu de 01 TV sur l'appli RMC BFM Play qui a été lancée il y a quelques semaines de cela, que vous pourrez retrouver sur votre iPhone, sur votre Android, sur les tablettes, etc. Et vous avez à la fois les flux de toutes les chaînes du groupe, hein, Altice Media, donc 01 TV, mais aussi tous les replays des émissions. Et c'est totalement gratuit, bien sûr, il suffit de vous inscrire. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Portez-vous bien, à très vite.
De Quoi Je Me Mêle sur BFM Business et 01 TV.